Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 12 février. On commence juste par un petit point de rappel hein, sur la vigilance par rapport aux conditions météo. Hein, la tempête Niels qui a soufflé très fort, mais seulement par endroits hein, cette nuit, et qui continue d'être attendue un peu dans l'après-midi, même si là pour l'instant, en tout cas du côté de Saint-Hippos, c'est plutôt calme. Et du coup, bah, les nuages refont leur apparition. Il est rappelé que des dégâts surtout peuvent être occasionnés donc, liés au vent, donc sur des réseaux de distribution avec des coupures d'électricité, comme ça a été le cas cette nuit sur la commune de Crosse. Attention aux toitures, cheminées, chutes de branches d'arbres, etc. Les véhicules en circulation. Donc il est toujours recommandé de limiter ses déplacements, de faire attention aux chutes d'arbres et d'objets, de protéger sa maison et les biens exposés au vent. Évidemment, de ne pas aller travailler sur des toitures, ni de toucher des fils électriques qui seraient tombés par terre. Et puis les balades en forêt aussi, mieux vaut les remettre à plus tard. On commence ce tour mondial de l'actualité en passant justement en Albanie, à Tirana, où des manifestations anti-gouvernementales ont dégénéré assez vivement. Des gros clashs entre les manifestants et la police, une manif anti-gouvernementale donc à Tirana, en Albanie. Une foule en colère rassemblée devant le Parlement s'est heurtée aux forces de police. La scène ressemblait à un champ de bataille, hein, avec beaucoup de manifestants étant équipés de pierres, de bombes fumigènes et de cocktails Molotov. Selon la police, au moins 16 policiers ont été blessés et 13 arrêtés. L'appel à cette mobilisation avait été lancé par l'ancien Premier ministre, principale figure de l'opposition, Sali Berisha, qui est le rival historique de l'actuel Premier ministre, Edi Rama. Les manifestants brandissaient notamment des pancartes avec des slogans contre le gouvernement, qualifiant celui-ci d'État à parti unique. Ils affichent des photos du Premier ministre et du vice-premier ministre accusés de corruption. Sali Berisha a indiqué donc qu'un membre du Parlement de son parti avait été blessé et transporté à l'hôpital. Du côté du gouvernement, la ministre de l'Intérieur, Albana Kosciu, a attribué les incidents et ce qu'elle déclare être des preuves liées au crime organisé. Le débat politique en Albanie reste donc intense depuis des décennies, avec des accusations mutuelles de corruption et de liens avec des réseaux criminels. Sali Berisha, lui, de son côté, l'opposant, a déjà appelé à un nouveau rassemblement ce 20 février. En France, dans l'affaire de la mort d'Adama Traoré, la Cour de cassation vient de prononcer un non-lieu définitif en faveur donc, des gendarmes du Val-d'Oise, accusés des violences qui ont entraîné le décès du jeune homme. L'avocat de la famille Traoré annonce dans la foulée qu'il va saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour faire condamner la France face à ses manquements. C'était donc hier que la Cour de cassation confirmait un non-lieu dans l'affaire de la mort d'Adama Traoré. Ce dossier est devenu emblématique des accusations de violence et de racisme de la part des forces de l'ordre. Le non-lieu dont ont bénéficié donc les gendarmes du Val-d'Oise en août 2023, qui a été confirmé en appel en mai 2024, devient donc définitif après 10 ans de combat devant la justice française des proches de la victime qui demandaient la reprise de cette enquête. Après 10 ans de combat, donc les proches d'Adama Traoré, un jeune homme noir de 24 ans, décédé en juillet 2016 dans une gendarmerie du Val-d'Oise, voient leurs espoirs de relancer l'enquête se dissiper, au moins en tout cas au niveau de la justice française, puisque la plus haute juridiction judiciaire vient d'écarter l'ensemble des arguments qu'il soulevait, en refusant donc d'annuler ce non-lieu prononcé en faveur des gendarmes 2 fois de suite. Les juges ont en cela suivi le parquet général de la Cour de cassation qui avait requis justement le rejet de ce pourvoi. On rappelle les faits, hein, le 19 juillet 2016, vers 17h, Adama Traoré est interpellé à Beaumont-sur-Oise par 2 gendarmes en civil dans le cadre d'une opération qui visait son frère Baggy, avec qui il se trouvait. Adama, qui n'avait pas ses papiers sur lui selon la famille, s'est alors enfui en courant avant d'être interpellé peu après chez un particulier. Ce qu'il s'est passé à l'intérieur n'est connu que par les dépositions des trois gendarmes. Les proches d'Adama Traoré les accusent de l'avoir étouffé du poids de leurs trois corps. Le jeune homme a d'ailleurs dit avoir du mal à respirer, puis il avait fait un malaise durant le trajet vers la gendarmerie de Persan dans le Val d'Oise et est mort peu avant 20h dans la cour de cette caserne. La famille, elle, n'a été informée du décès que 3 heures plus tard. Voilà pour les faits. Alors en ce qui est de, justement du traitement juridique de l'affaire et judiciaire, la chambre criminelle de la cour de cassation juge, elle, conforme à la loi, le refus des juges d'ordonner de nouvelles investigations, dont notamment une reconstitution des faits. Hein. Celle-ci a en effet toujours été refusée à la famille pour tenter d'éclairer les circonstances de cette interpellation et du décès qui a suivi. Dans l'affaire où l'interpellation s'est déroulée sans témoin extérieur et où l'instruction a donné lieu à de très nombreuses expertises et de rapports médicaux, souvent contradictoires d'ailleurs, la cour d'appel avait considéré que les gestes des gendarmes avaient contribué à la mort d'Adama Traoré, mais qu'ils étaient restés dans le cadre de la loi. La famille, elle, accuse les militaires d'avoir procédé à un plaquage ventral de plusieurs minutes qui aurait donc causé sa mort, et ensuite de n'avoir pas porté secours au jeune homme qui avait fait un malaise dans leur véhicule et qui avait été laissé menotté jusqu'à l'arrivée des pompiers. La chambre criminelle valide donc le raisonnement des juges sur l'assistance portée à Adama Traoré, qui pour eux, pour elle, est adaptée à la conscience qu'ils avaient du péril encouru. Et dans cet arrêt, il est également écrit qu'il n'est établi à la charge des gendarmes aucune faute caractérisée, exposant Adama Traoré à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Voilà donc pour ce non-lieu. Nous sommes scandalisés, choqués, a réagi en sortant de l'audience la sœur de la victime, Assa Traoré, figure de proue du comité Vérité et Justice pour Adama. L'affaire Adama Traoré a porté au plus haut la question des violences policières et du racisme systémique aussi de la justice. Nous sommes scandalisés et choqués. À son côté, d'ailleurs, l'avocat de la famille, Maître Yacine Bouzrou, rappelait que dans le dossier, un procureur avait donné de fausses informations et que des médecins avaient inventé des pathologies avant que l'affaire ne soit délocalisée de Pontoise à Paris. Ça, c'était au début de l'affaire. Les parties civiles ont dû faire appel à des experts indépendants aussi pour forcer la justice à admettre, 8 ans après, ce que tout le monde savait, à savoir qu'il était mort sous le poids des gendarmes et non d'un prétendu coup de chaleur. Et enfin, il rappelle que la justice a refusé donc toute reconstitution des faits, en bafouant en cela les règles les plus élémentaires d'une enquête digne de ce nom. La justice française a tout fait pour étouffer l'affaire, refusant d'évaluer la proportionnalité de la force employée. Et il annonce donc, dans la foulée, saisir la Cour européenne des droits de l'homme, dit-il, pour faire condamner la France. Et dans l'affaire des violences policières, c'est aussi aujourd'hui que la chambre de l'instruction de la cour d'appel devait se pencher sur la mort de Mohamed Gapsi, qui est décédé lui aussi à la suite d'une interpellation par 3 policiers municipaux, mais là c'était à Béziers, en avril 2020, donc pendant le confinement. L'examen du dossier a finalement été renvoyé au 12 mars, à la demande de la défense de l'un des policiers. Pour rappel, le 9 juillet dernier, le juge d'instruction en charge du dossier avait rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, à l'encontre donc de ce policier âgé de 37 ans, le policier municipal qui était mis en examen initialement pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La famille de Mohamed et ses avocats estiment que la qualification d'homicide involontaire est insuffisante. Ils demandent donc que le principal policier soit renvoyé devant une cour d'assises pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il demande aussi que les 2 autres policiers soient jugés pour non-assistance à personne en danger. Et c'est de cela dont il devait être question aujourd'hui. Mais finalement, il faudra attendre encore 1 mois de plus pour entendre la cour se prononcer sur cette affaire.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Allez, un petit verre d'eau polluée pour se remonter le moral. Nouvelle plainte déposée auprès du tribunal judiciaire de Lyon pour faire la lumière sur la détention et la commercialisation de pesticides interdits dans l'Union européenne sur le site de l'entreprise du géant de la chimie BASF, c'est BASF Agriproduction sur son site de Genet dans le Rhône, donc à côté de Lyon. C'était ce 9 février que les associations Génération Future et Alerte Planète, avec le soutien d'Extinction Rebellion, ont donc déposé cette plainte. Les faits dans lesquels le pesticide a été retrouvé sur place remontent au 23 juin 2025, lorsque des faucheurs volontaires d'OGM se sont introduits sur le site industriel, par effraction donc, et cela a permis de révéler la présence d'un pesticide qui s'appelle Fastac, qui contient comme substance active de l'alpha-cypermétrine, qui est donc interdit même au stockage dans le cadre de l'Union européenne. D'ailleurs, suite à cette action, c'est la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui avait mené une inspection officielle et confirmant donc la présence de ce fameux Fastac. Mais ils ont aussi d'ailleurs trouvé d'autres produits et des formulations à base de chlorphénapyre, qui est elle aussi une substance interdite. Le rapport de la DREAL estime ainsi à plusieurs dizaines de milliers de litres la quantité de Fastac destinée à l'exportation vers des pays hors Union européenne. Une inspection qui avait été réalisée en 2024, et le 13 février, avait déjà constaté la présence de Fastac sur ce site. Or, la production, le stockage et la circulation de ces produits sont interdits depuis 2022. Donc Fastac et autres formulations à base de chlorphénapyre. Les substances actives sont elles-mêmes interdites depuis le 1er janvier 2026. L'alpha-cypermétrine avait d'ailleurs été classée candidate à la substitution en 2019 par la Commission européenne avant le retrait de son approbation en 2021, faute justement de données toxicologiques suffisantes. Quant au chlorphénapyre, lui, il a vu son processus d'autorisation abandonné dès 2001. Et bien malgré cela, BASF, donc le géant de l'agrochimie, conteste toute illégalité et affirme que ces substances ne présentent pas de danger. Les associations, elles, réclament de leur côté donc une interdiction totale de production et d'exportation de pesticides interdits, y compris pour les biocides, ainsi qu'une action coordonnée au niveau européen.
L'air pur, l'eau pure et une terre saine, de ces trois choses, nous n'avons plus une seule. Voilà, et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
On va rester sur la thématique de ces pesticides interdits, puisque la loi du plomb fait son retour. Mais avant cela, une petite brève rapportée dans les colonnes du média Reporter, qui justement s'est penchée sur le lobby européen de la chimie. On y apprend que celui-ci a obtenu plus de 200 réunions avec des commissaires européens pour tenter d'assouplir les règles d'autorisation de ce fameux produit dangereux. Donc 200 réunions et avec plutôt un franc succès dans les résultats. C'est ce que révèle un rapport d'enquête d'une ONG qui s'appelle Corporate Europe Observatory et qui a été relevée aussi par Mediapart. Donc c'est le CEFIC, le Conseil Européen de l'Industrie Chimique, donc, qui a pu décrocher 93 rendez-vous de haut niveau avec la Commission européenne pour peser sur la révision du règlement REACH. Ça, c'est un règlement qui encadre l'autorisation des produits chimiques justement dans l'Union européenne. Stéphane Séjourné, qui est ancien ministre des Affaires étrangères en France, qui est aujourd'hui commissaire européen et vice-président de la commission chargée de l'industrie, fait partie des personnalités les plus courtisées donc par les lobbyistes. Sa collaboratrice chargée de la révision du règlement a donc mené 52 entretiens avec des lobbyistes de la chimie. Et ces rencontres ont donc été fructueuses. Ainsi, l'omnibus, vous savez, ces paquets de lois justement visant à simplifier la réglementation, l'omnibus 6, présente une série de simplifications répondant donc aux demandes de ces fameux industriels. La directive européenne Omnibus 6 propose d'allonger, par exemple, de 18 à 58 mois, donc de tripler quasiment le délai pendant lequel un produit cosmétique contenant une substance dangereuse, cancérogène, mutagène ou reprotoxique, peut rester sur le marché. Donc, du moment où une analyse, par exemple, prouve que s'il y a vraiment des dangers pour la santé, pendant 3 ans, il voudrait qu'encore on puisse, par exemple, vendre ces produits cosmétiques et se les mettre sur la peau. D'autres exemples, d'ajouter des critères de dérogation pour autoriser ces fameuses substances CMR, donc ça veut dire cancérogène, mutagène ou reprotoxique, dans certains produits. Et enfin, l'Omnibus 6 prévoit d'assouplir les règles d'étiquetage des produits chimiques dangereux. Allez, on va maintenant parler du sénateur Duplomb et de l'agriculteur, M. Duplomb, puisqu'il est aussi agriculteur, avec une enquête exclusive du média Bon Pote qui révèle comment ce sénateur a touché plus d'un million d'euros de subventions dans le cadre de son activité d'agriculteur. Le sénateur LR se présente comme l'ambassadeur et le défenseur d'un monde rural en souffrance. Il se décrit comme un agriculteur dans la moyenne française, et c'est à ce titre qu'il a porté la loi du même nom. Bien, la réalité, donc, que révèlent ces chiffres, c'est qu'il fait partie des agriculteurs les plus subventionnés de France. voire même dans les 1% qui seraient les mieux dotés pour l'année 2023, où ils ont pu avoir accès à ces données. En 2023, il a reçu presque 210 000 euros de subventions. Depuis 2020, selon les calculs basés sur les données de la PAC ou des délibérations régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, la structure familiale de Laurent Duplomb a capté ainsi plus d'un million d'euros d'aide publique. Ces subventions ont d'ailleurs explosé en 2025. Et alors qu'il portait donc là aussi sa loi de simplification agricole, très, très contestée, notamment dangereuse pour les Français et en partie censurée, son exploitation donc agricole bénéficiait simultanément de subventions majeures pour des agrandissements, justement facilitées par son propre texte, puisque dans la loi Duplomb, il y a aussi ça. Ces informations sont donc inédites et elles prouvent que l'exploitation familiale, où c'est une ferme bovine, est aux antipodes de la réalité des petits agriculteurs, qui n'hésitent d'ailleurs parfois pas à dénigrer. Elles montrent aussi que grâce à des mesures et des décrets qui vont le concerner directement, et grâce aussi à ses amitiés politiques, les actions du sénateur Duplomb sont très utiles aux finances de la ferme de l'exploitant Duplomb. Peux-tu donner quelques chiffres d'abord sur la taille des exploitations en France, hein. Une majorité des exploitations encore en vie en France, donc 73% d'entre elles, sont des petites ou micro-exploitations, avec un potentiel agricole inférieur à 100 000 ou à 25 000 euros. Ça, c'est pour petites ou micro-exploitations. Ces exploitants, eh bien justement, Laurent Duplomb, cité dans Politis, assume ne pas les défendre. Il disait ceci. En France, un tiers des exploitations agricoles a un chiffre d'affaires inférieur à 25 000 euros par an. Ceux-là, ce ne sont pas des agriculteurs, ils vivent des aides. Ma proposition de loi, c'est pour les deux tiers qui produisent quelque chose. Donc, vous aurez compris que les bénéficiaires des subventions qu'ils dénigrent, ce sont les petites. Et ils dénoncent aussi les associations qui dénoncent des subventions, par exemple France Nature Environnement ou Génération Future dans sa région. Ça, c'était lors de son intervention parlementaire à la fin du mois de janvier. Donc voilà qui rend tout ça plus intéressant, puisque pour prospérer, ce qu'explique le sénateur Laurent Duplomb, là où tant de ses voisins stagnent, eh bien, c'est qu'il faut s'agrandir, agrandir sa ferme. Mais pour cela, il faut des financements. Et justement, l'expansion de sa ferme repose beaucoup sur un outil qu'il critique, à côté de cela, publiquement, les subventions. En effet, son exploitation a fait le moteur de sa ferme, de ses subventions, dans le top 1% des fermes les plus aidées pour 2022-2023, d'après cette enquête, avec un montant des subventions de 209 000 euros sur 2022-2023. Politiquement aussi, il est bien entouré, puisque depuis 2017, on le qualifie du poisson pilote de Laurent Wauquiez au Sénat. Laurent Wauquiez considère Laurent Duplomb comme un ami, et les fonds régionaux qui sont touchés par Laurent Duplomb procèdent justement de délibérations régionales signées par Laurent Wauquiez ou par son successeur Fabrice Pannekoek. Ces informations posent question, hein, d'autant plus que la gestion des fonds régionaux et son manque de transparence ont déclenché par le passé plusieurs enquêtes journalistiques, mais aussi des procédures du parquet national financier, ou même encore des requêtes de Anticor, l'association de lutte contre la corruption. Tous dénoncent un manque de transparence, des dépenses somptuaires ou illégitimes, avec des dîners, des sommets, des sondages et des soupçons d'emploi fantômes, et une préférence marquée dans l'octroi des fonds pour certains territoires marqués à droite, comme le département de la Haute-Loire, où se situe justement la ferme de M. Duplomb. Alors si le sénateur affirme vouloir avec sa loi Duplomb répondre aux demandes des filières agricoles, ces mesures favorisent donc surtout un modèle industriel avec des grosses fermes dont il est l'un des principaux bénéficiaires. Cet intérêt personnel entre en collision directe avec l'intérêt général puisque des experts scientifiques soulignent les effets délétères de la loi Duplomb sur l'environnement et la santé. Pour résoudre les problèmes économiques des agriculteurs et pour gagner en équité, conclut cette enquête du média Bon Pote, il faudrait mieux répartir les aides, alors qu'en Europe, 20% des agriculteurs les plus riches touchent 81% des aides de la PAC. L'une des mesures portées pour ce faire par de nombreux experts et des collectifs européens serait justement un plafonnement ou la dégressivité des aides de la PAC, des réformes qui pourraient bénéficier à la santé publique, l'environnement et à la majorité des paysans. Et il y a des liens hypertextes dans l'article, je vous y renvoie si vous voulez en lire un petit peu plus justement sur ces propositions.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
Allez, on va conclure avec cette histoire de loi Duplomb. Et justement, la nouvelle pétition pour la nouvelle loi Duplomb, qui était débattue à l'Assemblée nationale hier. Plus de 2 millions de signatures pour cette pétition, la numéro 2 si vous suivez. 6 mois après avoir recueilli plus de 2 millions de signatures, la pétition a été discutée donc hier à l'Assemblée lors d'un débat inédit et entre-temps elle a été redoublée d'une deuxième pétition. Le problème de ce débat, même s'il est inédit, c'est qu'il ne donnera lieu à aucun vote, ce qui ne manquera pas de tourner autour d'un nouveau texte pro-pesticide tout juste redéposé au Sénat. Aucune pétition jusque-là n'a été débattue dans l'hémicycle, hein, dans l'histoire de la Ve République. La portée de ce débat, je vous le disais, ne pourra pas aboutir à une modification de cette loi, qui a d'ailleurs par ailleurs entre-temps été largement censurée par le Conseil constitutionnel, notamment en ce qui concerne un néonicotinoïde présent dedans. Tout cela suscite donc malgré tout des critiques. En tout cas, c'était l'occasion aux abords de l'Assemblée de refaire pour les opposants à ces textes un nouveau rassemblement. À partir de 12h30, il a eu lieu hier à l'appel de plus de 200 organisations. Plusieurs dizaines de rassemblements avaient également eu lieu en France ce week-end, ce qui démontre une mobilisation toujours forte sur ce sujet. La loi du plomb, donc, adoptée au Parlement début juillet, avec le soutien des macronistes LR et l'extrême droite, peut faciliter par exemple le stockage de l'eau ou l'agrandissement des bâtiments d'élevage. Je viens de vous en parler juste avant. Mais une autre mesure avait concentré l'indignation, c'était le retour de l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, les fameux tueurs d'abeilles, interdit en France mais autorisé ailleurs en Europe. Peu après, le Conseil constitutionnel avait donc finalement censuré la disposition qui parlait donc du retour de l'acétamipride, faute d'encadrement suffisant. A noter que la semaine dernière, le sénateur Duplomb a déposé une nouvelle proposition de loi, elle visant à réintroduire cet insecticide, en prenant compte, dit-il, des remarques du Conseil constitutionnel. Laurent Duplomb juge ces textes nécessaires pour aider notamment les producteurs de betteraves et de noisettes qui se disent sans solution alternative contre les épidémies. Il y en a quand même qui proposent d'autres modèles agricoles et des solutions alternatives, mais bon, visiblement, il ne va pas les consulter. En tout cas, les discussions ont eu lieu hier après-midi, donc dans un hémicycle plutôt clairsemé, des députés de tous les bords débattant pendant près de 3 heures des conséquences de ce texte agricole adopté il y a 7 mois. Les discussions ont malgré tout beaucoup tourné autour de la question de la réautorisation ou pas de plusieurs pesticides interdits en France, alors que ce n'était pas dans la loi. Chaque groupe pouvait ensuite poser une ou deux questions en fonction de sa taille. Hein. Ça fait partie des nouvelles modalités qui ont été pensées justement pour que le débat ne soit pas trop insatisfaisant. C'est ce qu'expliquait la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, qui d'ailleurs rappelait qu'en modifiant les conditions d'accès à un RIP, un référendum d'initiative populaire, un vote aurait pu être possible hein, si par exemple les seuils nécessaires pour atteindre ce RIP étaient abaissés. Pour l'instant, on est à 4 millions. Mais là, avec 2 millions de signatures pour la pétition, ça aurait pu être une possibilité démocratique intéressante. Allez, on termine avec deux infos un peu rocambolesques, puisque carnaval approche, hein, au Pays Basque tout d'abord. Un carnaval organisé donc avec une école primaire, et donc la mairie, s'est terminé à Hasparren par le brûlage d'un mannequin à l'effigie de Jordan Bardella, disons-le, en tout cas d'un représentant du Rassemblement National. Ça se passe à Hasparren, donc à Hasparren, Pays Basque, et au cours de ce carnaval, comme c'est la tradition, une poupée géante a été brûlée sur la place publique, jugée, puis ensuite brûlée sur la place publique, et celle-ci représentait Jordan Bardella. Le mannequin donc était grimé aux couleurs du RN, avec des signes permettant d'identifier clairement. Ça n'a pas manqué de susciter des réactions, notamment à l'extrême droite. Hein, il n'en a pas fallu plus à l'ancien commissaire de police, star des plateaux télé et eurodéputé RN Mathieu Vallet pour s'indigner et mettre la fachosphère en ébullition via notamment un tweet qu'il a posté. Alors on rappelle sur la tradition carnavalesque du Pays Basque, qui ressemble d'ailleurs à de nombreuses autres carnavals dans le monde. Chez eux, donc cette figure s'appelle San Panzar. C'est le caramantran basque, donc, et San Panzar est une figure traditionnelle des carnavals du Pays Basque Nord. Ce qu'il symbolise, c'est donc un bouc émissaire collectif. On lui attribue symboliquement des malheurs, fautes ou tensions de l'année. À travers ce jugement, il est donc jugé publiquement, parfois lors d'une mise en scène satirique, puis il est brûlé, ce qui représente une forme de purification et le passage vers des jours meilleurs, ce qui est d'ailleurs en général le cas de carnaval qui annonce la fin de l'hiver et le retour du printemps. Ce personnage peut prendre l'apparence d'une figure publique ou caricaturale. La dimension moqueuse et politique fait donc partie intégrante de la culture carnavalesque européenne. On peut, pendant cette période, renverser temporairement les normes et critiquer les puissants. Ainsi conclut cette petite diatribe, brûler un mannequin n'est pas dans ce cadre un appel à la violence réelle, mais un rite ancien mêlant humour, critique sociale et théâtre populaire. D'ailleurs, ça renvoie vers une autre émanation de carnaval qui a aussi fait couler de l'encre un petit peu, dans le côté blasphématoire, disons ça. C'était à Mulhouse le 29 janvier dernier, hein, une performance artistique d'étudiants dans une école d'art qui ont procédé à la mise à sac d'une piñata, une piñata en carton à l'effigie d'un véhicule de police. Cela indignait aussi la droite et l'extrême droite, menant même à l'ouverture d'une enquête judiciaire, hein, puisqu'un signalement a été fait auprès du procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Michel Lutz, donc le procureur, conclut son communiqué en réitérant son indéfectible soutien aux forces de l'ordre, policiers nationaux, policiers municipaux, gendarmes, sapeurs-pompiers, qui chaque jour, disent-ils, affrontent d'innombrables dangers pour assurer notre sécurité à tous. Pardon, ça c'est pas le procureur, c'était un notable local qui a lancé cette alerte. Le procureur, lui, a confirmé l'ouverture d'une enquête pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et outrage au drapeau tricolore. Celle-ci a été confiée au commissariat de Mulhouse. Les investigations en cours sont sous la direction du parquet et s'attacheront à permettre la manifestation de la vérité, a-t-il conclu. On laisse la parole maintenant au directeur de cette école d'art, Stéphane Sauzède, a communiqué un publié en début de soirée, donc c'était juste après les faits. Il a regretté que cette proposition artistique ait pu être comprise comme dégradante ou insultante. Il a rappelé que la proposition de ces trois étudiants, à savoir une représentation symbolique et non réaliste en carton d'un véhicule de police conçu sous la forme d'une piñata, était sur le carnaval. À ce titre, dit-il, elle relève pleinement des champs de la création, de l'expérimentation et du débat esthétique qui traverse l'histoire de l'art. La piñata de Mulhouse, une fois démolie à coups de bâton, avait notamment laissé s'échapper des morceaux de papier détaillant des cas de violence policière. Allez, une dernière info insolite que j'ai vue, c'est peut-être presque carnaval, c'est aux États-Unis. C'était le projet de Mark Anderson, un homme de 36 ans. Eh bien, il s'est fait passer pour un faux agent du FBI et il s'est présenté à la prison de Brooklyn pour tenter de faire libérer Luigi Mangione, le tueur du PDG de United Healthcare, qui est en prison et qui est une des plus grandes compagnies. Healthcare, elle, est une des plus grandes compagnies d'assurance américaines spécialisées dans la santé. Le Mark Anderson en question, donc originaire du Minnesota, il s'est présenté à l'accueil du centre de détention de Brooklyn en se faisant passer pour un agent fédéral. Il a déclaré devant les deux policiers être en possession de documents signés par un juge qui autoriserait la libération du meurtrier présumé. Après présentation de son permis de conduire aux forces de l'ordre pour attester de son identité, il a affirmé être muni d'armes et au passage au rayon X, une fourchette à barbecue et un couteau rond à pizza ont été retrouvés dans son sac par la suite, puisqu'en effet, le pauvre homme travaillait dans une pizzeria locale. Il a donc été inculpé pour usurpation d'identité et comparaissait devant le tribunal ce jeudi 29 janvier. Bon, il n'aura pas été très loin dans sa tentative. Luigi Mangione, rappelons-le, est suspecté d'avoir tué par balle en plein Manhattan Brian Thompson. Bon, il y a quand même des vidéos qui le montrent sous tous les angles. Le chef de l'une des plus grosses entreprises d'assurance spécialisées dans la santé aux États-Unis. Luigi Mangione avait été arrêté 5 jours plus tard dans un McDonald's de Pennsylvanie, puis extradé à New York, incarcéré à la prison de Brooklyn, en devenant rapidement une figure de la colère du peuple américain.
Oh, les ramboles, tout ça, mais c'était que vraiment la fin.
Et on vous rappelle que Carnaval, eh bien, ça arrive, c'est ce week-end, et notamment Mardi Gras prochain. Pour ceux qui ont envie de se faire un petit bain de foule, le rendez-vous à Montpellier est à 19h au Pérouf pour le carnaval des gueux.
Nous fous, médecins du carnaval, devons soigner les fous. Fous démolisseurs, devons soigner les fous. De nos gouvernements, devons les réveiller. Sont en train de rêver. Fous démolisseurs se croient loin de ce monde. Devons soigner les fous, les faire venir au monde. Quand ils vont s'éveiller, se mettront à pleurer, sont en train de tout casser. Nous fous du carnaval, devons soigner ces fous.
Informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.